Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Retro Gaming, et cette fois-ci on va discuter de l'Argus du jeu vidéo en ce Noël 2019. On va essayer de vous faire découvrir les bonnes affaires que vous pouvez faire encore dans les magasins indépendants sur Paris et en province. Les magasins qui vous proposeront, je pense, des prix en occasion assez attractifs pour certaines plateformes encore cette année. Il faut dire que le marché du jeu vidéo en rétro gaming s'est très très resserré, c'est-à-dire que les jeux que vous pouviez avoir il y a 3-4 ans encore à des prix vraiment sympas sur la Dreamcast ou sur la Saturn, et ben aujourd'hui c'est terminé. Alors on peut voir par exemple que les prix de la Saturn ont flambé à un point. Je pense que ça c'est surtout dû à tous les collectionneurs qui ont pris tout ce qui était disponible en occasion à un certain moment, avec des jeux qui étaient autour de 15-20 euros encore disponibles. Et là on se retrouve avec par exemple la console Saturn qui est à un prix exorbitant. Je crois que c'est une des consoles les plus chères après la Neo Geo. Elle est autour de 120 euros complète, avec deux manettes, le transfo et la console, si vous voulez en acquérir une cette année. Il faut dire également que la Neo Geo, ça n'a pas baissé de prix, c'est toujours le même tarif, c'est une console qui n'est pas à moins de 300 euros d'occasion, la console AES. Après, pour ce qui est de la console Neo Geo CD, je ne sais pas sincèrement si ça vaut encore la peine d'en acheter une, vu la qualité de la lentille et puis des chargements. Alors c'est sûr que c'est une console que vous trouverez à un prix plus bas, mais ça restera tout de même d'une qualité moindre, je pense, par rapport aux consoles cartouches que vous pouvez avoir encore sur le marché de l'occasion. Vous pouvez avoir des jeux qui sont à des prix exorbitants en version PAL, comme je dirais les Golden Axe, vous avez les Street of Rage, Swarm Gym, etc. C'est des jeux, je pense, qui sont... Alors Swarm Gym, c'est un peu différent parce que ça reste quand même du jeu... encore plus cher en version Super Famicom, mais par contre sur les versions Super NES, vous avez des jeux européennes, vous avez des jeux à des prix dépassant facilement les 40-45 euros en boîte complète pour des jeux PAL. Des jeux en loose comme les Rockman, les Megaman, qui sont à entre 10 et 15 euros la plupart du temps sur les sites de vente au Japon, et je vous conseille sincèrement de plutôt vous tourner vers des Rockman si vous voulez du Megaman. C'est vrai que la Super NES reste une console toujours plus chère que la Mega Drive au niveau de l'occasion, même si on retrouve une augmentation par rapport à l'été dernier, et ça je l'avais dit dans un précédent live, c'était au mois de juin dernier, il y a 6 mois, j'avais dit que je ferais un peu le point par rapport au marché du rétro gaming aujourd'hui. Et on a constaté sur la plupart des consoles une augmentation de 10 à 15% du prix des jeux complets sur Mega Drive. La première raison, c'est la pénurie, c'est-à-dire que la plupart des jeux qui étaient à l'époque à moins de 20 euros complets en boîte sont passés autour de 30 euros aujourd'hui, 25-30 euros. Vous avez pratiquement tous les jeux Disney, les Castle of Illusion, il y avait Ariel la petite sirène, il y avait Le Roi Lion, etc. Bon, c'est des jeux qui sont passés facilement au-dessus de la barre des 20 euros en boutique. Alors, il y a toujours la possibilité aux enchères de récupérer ces jeux-là pour un moindre prix, mais ça reste très très compliqué. Vous pouvez faire des affaires sur des jeux comme les Shinobi, Shadow Dancer, complet en boîte au Japon également autour de 35-40 euros, alors qu'en Europe c'est passé au-dessus de la barre des 45-50 facilement. Il y a pratiquement 10 euros d'écart. Moi je conseille vraiment aux gens après d'acheter du loose et de se refaire les jaquettes, et donc d'acheter après des boîtes vides disponibles sur plusieurs sites de vente indépendants en Chine, en Taïwan, etc., qui vous vendent des boîtes environ pour moins de 2 euros, le lot, 5 boîtes pour moins de 2 euros. Donc après, je pense qu'on peut s'y retrouver assez facilement. Tout dépend après de la qualité de l'impression, de la jaquette que vous faites. Mais la Mega Drive, ça reste une console vraiment encore très attractive hein, pour la plupart des collectionneurs parce que vous avez beaucoup de jeux en boîte complet pour moins de 30€ encore aujourd'hui. Même si, hein, je vous dis, les classiques ont monté en prix, vous avez également des jeux qui sont devenus assez rares, comme Addams Family Values, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Et Batman et Robin, hein, Prince of Persia, qui ne bouge pas trop de prix, hein, Batman et Robin, qui était autour de 89-90€ complet en boîte, voire même parfois en loose. Bah, ça n'a pas trop bougé. C'est vrai que par contre, il y a des collectionneurs qui avaient à une époque mis ce jeu à plus de 120€. Bon, on est quand même retourné dans des prix assez abordables. Il y a des jeux comme Zombie Hate My Neighbors et des jeux comme aussi Boogerman qui ont monté, qui sont montés en prix. Malheureusement, pour les collectionneurs, c'est passé autour de 59-60€. Alors, comme je vous disais, pour la Super NES, Earthworm Jim, ça reste un jeu qui est très difficile à trouver, même si c'est un classique. Très difficile à trouver en dessous de 35-40€. Je vous parle toujours en version complète. Hein, et puis, Everine, hein, qui est un jeu vraiment sympa hein, sur Mega Drive, qui est l'équivalent de la version Super NES, qui est autour de, pareil, hein, ces eaux-là, à 45-50€, voire 60 parfois, qui reste un jeu assez cher. On va dire que les jeux qui étaient chers il y a peut-être un an, bah, sur Mega Drive, ça a assez stagné. Par contre, hein, comme je vous disais, la plupart des classiques sont montés en prix. Il y a de très bons shoot'em up, hein, Fire Shark, Ranger X, Twin Cobra également, qui sont devenus des valeurs rares. Pour les shoots sur Mega Drive, qui est une console de référence hein, niveau shoot'em up pour les fans, comparé à la Super NES qui a un peu moins de shoot, mais ça reste quand même de la qualité hein, parce que quand on a du Gradius, des R-Type, etc., ça reste assez sympa la Super NES aussi en shoot'em up. Les versions PAL par contre ont baissé, je trouve, au niveau des prix des shoot'em up. Par exemple, vous avez des Super R-Type à moins de 15€ en loose, alors qu'à une époque ça. C'était assez exorbitant les prix pour du simple loose sur du PAL. Sinon, bah, si, niveau jeu de combat, hein, Mega Drive, Super NES, hein, tout ce qui est Fatal Fury Special, Street Fighter, etc., ça a un peu baissé là, paradoxalement. Je pense que les joueurs au niveau des jeux de combat se sont plus tournés vers de la Neo Geo. Ça peut expliquer le fait que les jeux de combat aient beaucoup baissé en prix sur la Super Famicom et puis la Mega Drive. Après, sur Mega Drive, on avait des jeux comme Street Fighter 2 Prime et puis les Mortal Kombat qui sont restés à des prix autour de 30€ complet en boîte. Mais par rapport à une époque où ces jeux étaient très prisés, on en retrouve beaucoup en occasion aujourd'hui. Alors, les Fatal Fury Special, moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué parce que si on peut se rappeler de l'époque, allez, 96-97, voire 95 même, hein, plutôt 95 au moment de la sortie de la PS1, Fatal Fury Special sur Mega Drive, sur Super Famicom plutôt, c'était un jeu qui était très prisé par la communauté parce qu'on n'avait pas la possibilité de s'acheter une Neo Geo à l'époque. Et la plupart des joueurs, en fait, adoraient ces versions-là qui étaient en 60Hz avec la console japonaise. C'était un jeu qui coûtait très très cher en Oka. C'était un des jeux les plus chers de SNK à l'époque en Oka sur Super Famicom. Et aujourd'hui, ce jeu-là, vous pouvez le retrouver à moins de 20€ complet au Japon. Ça me fait un peu mal au cœur, entre guillemets, de voir ce jeu-là à un prix aussi bas. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut s'expliquer par le fait que la plupart des joueurs aient préféré les versions Neo Geo. Je comprends tout à fait. Et puis qu'ils aient remis sur le marché de l'occasion hein, les Samurai Shodown, les Art of Fighting sur leur console 16 bits. Sinon, bah voilà, comme je vous disais, hein, Prince of Persia, c'est un jeu qui est assez recherché comme les Another World aujourd'hui. Flashback, un peu moins. Flashback, vous pouvez retrouver pour moins de 20€ complet. Je pense qu'il y en a eu trop sur le marché à un moment donné et les joueurs, on va dire, certains ont préféré garder une version et pas garder les deux versions sur les deux consoles. Donc on peut en retrouver facilement en occasion pour moins de 20€. C'est vraiment une bonne affaire Flashback aujourd'hui sur Mega Drive, qui est une version, je trouve, un peu meilleure que la version Super NES par rapport aux détails, à l'image. Et même la musique a un peu plus de basse, un peu plus de punch. Alors que sur Super NES, les décors sont un peu trop lissés, un peu trop fades. Avec une musique un peu plus symphonique, c'est vrai, mais trop lisse, on va dire. Sinon, de quoi on pourrait parler ? Bah, surtout de la Master System, je trouve. Hein, Master System et la NES, on va comparer les deux consoles. la Master System aujourd'hui, je pense que c'est la console qu'il faut récupérer actuellement. C'est une console qui a été plus ou moins boudée par rapport à la NES au niveau du rétro gaming. Mais si vous voulez faire des affaires aujourd'hui, c'est sur Master System pour Noël 2019. La console est en dessous de 50 € voire 40 € avec une manette, un transfo, le câble RGB sur la plupart des sites de vente. Surtout la Master System 2, parce que la Master System 1, c'est une console qui est difficile à récupérer par rapport à l'esprit collectionneur, hein. Les gens ont préféré avoir la Master System 1 chez eux pour deux raisons. C'est qu'il y a, il y a parfois des versions FM avec la version japonaise. Et puis il y a également le port disque, disquette, on va dire un port disquette, hein, avec les petites cartes que vous mettez à l'intérieur de la console. Il y a certains jeux qui font. Et aussi le mode 3D, qui est seulement présent sur la Master System 1. Et donc voilà, c'est une console Master System 1 qui est au-dessus de 70 €, c'est vrai. Mais là, Master System 2, 40 € d'occasion, vous pouvez en trouver facilement aujourd'hui. Et la plupart des jeux, c'est moins de 10 €, entre 5 et 10 € du loose et du complet. La plupart des gros titres, c'est moins de 15 €. C'est assez facile à trouver. Après, vous avez des titres un peu plus rares, hein, comme certains shoot'em up comme Cloud Master. Il y a Master of Darkness aussi qui reste assez cher, même en loose, à 18, 19, 20 €. Sinon, vous avez des classiques, hein, comme Opération Wolf, Strider 2, Batman Returns, Double Dragon, Jurassic Park, Chase HQ, les Sonic 1 et 2, Sonic Chaos, tous ces jeux, c'est moins de 15 € complet en boîte aujourd'hui. Et c'est vraiment la console qu'il vous faut si vous faites du rétro gaming aujourd'hui, parce que les prix vont sûrement repartir avec l'effet inverse en remontant. La NES, c'est vrai, par contre, c'est une console qui a été énormément prisée par les collectionneurs, et la NES, on s'est retrouvé avec des prix exorbitants en loose. Avec des versions complètes, j'en parle même pas, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez du complet sur la NES, c'est, on va dire, 25 minimum la boîte, la notice, pour le jeu le plus bas, quoi. On va dire des Bayou Billy. Il y avait du Battletoads à une époque qui était abordable entre 25 et 30 aussi, mais ces jeux sont repartis à 40 €, surtout pour du PAL. Alors la plupart des collectionneurs aussi ne veulent pas modifier leur console NES avec la petite manipulation, la petite astuce, là, couper la quatrième patte à l'intérieur de la patte qui fait passer la console en NTSC pour la plupart des jeux. C'est une modification qui ne vous coûtera rien, hein. Vous pouvez le faire tout seul, il n'y a aucun souci, c'est très facile à faire. Et vous pouvez avoir sur la NES la plupart des jeux américains qui tournent sans problème sur votre console PAL. Alors, vous pouvez faire des affaires, hein, avec les Probotector 1, 2, 3, parce qu'il y a 3 Probotector, c'est ça que la plupart des gens ne savent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que Contra 1 et Probotector 1 sur la Super NES et sur la NES. Et ben non, il y a Probotector 1, 2, 3, comme il y a également les Teenage Mutant Turtles 1, 2 et 3 sur. Et la version arcade, hein, qui est TMNT. Numéro 2, comme la version Super NES, c'est l'adaptation NES. Et vous avez les trois jeux, vous pouvez les trouver. Enfin, le 1 que tout le monde a eu avec le pack NES à l'époque, c'est un jeu qui est facilement trouvable, qui coûte rien, mais qui est très difficile à jouer. Après, pour l'esprit collectionneur, hein, je peux comprendre qu'on veuille l'avoir. Mais le 2 et 3, c'est des pépites, c'est des jeux de plateforme action, beat'em up. Et c'est des très bons jeux, hein, comme les Double Dragon 1, 2 et 3, qui sont les meilleures versions que vous pouvez trouver sur console 8 bits. Alors il y a les versions Game Boy aussi, mais les versions Game Boy sont beaucoup plus raccourcies, les niveaux sont moins longs, il y a moins d'ennemis. Je vous conseille pas aujourd'hui, par exemple, de racheter une Game Boy, parce que le problème, c'est que sur Game Boy aujourd'hui, vous avez le problème de l'écran LCD. Avec des pertes de lignes d'affichage, pertes d'affichage avec des lignes qui ont disparu avec les écrans LCD. Vous avez des problèmes de contraste avec les condensateurs qui ont baissé, des problèmes de son. Après, je pense pas que les touches étaient très solides, hein, sur la Game Boy. Mais c'est plus dans la recherche, je pense, sur Game Boy, de la version qui a été remasterisée avec des gens qui ont changé les écrans, changé les condensateurs. pour avoir une Game Boy vraiment propre, un peu comme sur la Game Gear. Je pense qu'il ne faut pas acheter une Game Gear aujourd'hui parce que le problème, c'est que vous aurez à la réparer. Il faut vraiment racheter aujourd'hui des appareils qui ont été reconditionnés. Et sur Game Boy, la plupart des jeux, bah, ça dure entre 15 et 20 minutes, hein, maximum. Alors si après, vous n'êtes pas exigeant et vous avez un côté fanboy de la Game Boy, vous pouvez acheter cette console aujourd'hui, mais toujours en étant méfiant par rapport à la qualité de cette console que vous allez trouver sur eBay ou sur d'autres sites qui sont pas très regardants au niveau de la qualité, qui vous mettent en vente des consoles et quand vous la recevez, bah, l'écran devient de plus en plus sombre ou vous avez des pixels morts, etc. Et ça, c'est un gros problème sur ces consoles 8 bits aujourd'hui. Alors, je parle même pas de l'Atari Lynx, hein, parce que l'Atari Lynx, la setlist de cette console est très faible. Surtout qualitativement, mais la console, c'est un gouffre financier par rapport aux réparations et surtout par rapport aux très peu de jeux que vous pouvez trouver qui sont à des prix assez élevés aujourd'hui. Donc, ouais, voilà, pour retourner sur la NES, je pense que c'est une console que vous pouvez encore acheter aujourd'hui, même si les prix ont augmenté. Elle est encore assez abordable hein, au niveau du loose. Vous avez des très bons magasins sur Paris avec Retro Gameplay et Trader qui vous font des très bons jeux au niveau des prix en loose autour de 9 €, 5 €. Des très bons titres assez forts hein, sur cette console. Par contre, dès que vous voulez acheter voilà, du complet en boîte, ça devient très très compliqué. Il faut avoir vraiment un porte-monnaie assez conséquent. Sinon, par rapport au Mega CD aujourd'hui, le Mega CD, bah, c'est une console qui est devenue très très chère, pratiquement, on va dire, inabordable hein, pour le collectionneur d'aujourd'hui. Le Mega CD aujourd'hui, c'est plus de 200 € minimum hein, pour en avoir un qui fonctionne. La plupart des gens vous mettent des Mega CD qui sont hors fonction en vente, hein, vendu pour pièces. Il faut bien regarder les annonces. Et le Mega CD aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très très rare, un peu comme la Neo Geo, je veux dire, au niveau du rétro gaming. Comme la Jaguar, hein, la Jaguar qui a gardé son prix d'il y a 6 mois, 1 an environ. Et qui est toujours en train de monter, hein, parce que les anciens collectionneurs se réapproprient cette console, même si les titres ont été mauvais, mais je pense que c'est plus pour le côté du merchandising la plus ratée dans l'histoire au niveau du lancement. Hein. La Jaguar 64 bits à l'époque, qui devait concurrencer la Super NES, la PS1, il n'y a rien du tout qui a été concurrencé, ça a été un gouffre total, comme la 3DO de Panasonic. Et aujourd'hui, si vous voulez du Jaguar en console, la plupart des consoles Jaguar se vendent en boîte complète hein, parce que c'est très rare de trouver du loose sur du Jaguar aujourd'hui et ça devient assez inabordable. Quand on voit les prix d'une Jaguar aujourd'hui, on se demande pourquoi en fait certains collectionneurs ont décidé de récupérer cette console parce que finalement elle aurait dû mourir dans son côté toute seule. Mais je pense que c'est un peu comme les ordinateurs qui sont sortis à une époque, vous savez, les Spectrum, les Amstrad CPC. Il y a un attrait aujourd'hui pour le collectionneur de ces appareils qui ont été oubliés, entre guillemets, et que pas mal de gens veulent récupérer aujourd'hui parce qu'ils ont eu déjà dans leur collection tout ce qu'ils voulaient et ils s'attaquent aujourd'hui à des choses qu'ils n'ont pas. Et ça va être un peu le mal, entre guillemets, du fanboy qui veut seulement récupérer aujourd'hui un Amstrad, une PC Engine, un Mega CD, bah c'est pratiquement impossible. Il devra être en concurrence au niveau des achats par rapport aux vrais collectionneurs et ça va être compliqué pour lui d'acquérir à un bon prix ce genre d'appareil. Sinon, de quoi on pourrait parler encore? Bah, moi, je vous conseille hein, vraiment de regarder aussi les jeux sur PS1. PS1, au niveau du rétro gaming, surtout au niveau du marché américain et japonais, c'est tout à fait abordable. En boîte complète, vous avez des jeux pour moins de 10 €. Après, bien sûr, il faudra être très regardant par rapport à la qualité du CD au niveau des rayures. Alors, vous pouvez aller les yeux fermés sur le marché japonais parce que les Japonais font très très attention à leurs appareils. Ils en prennent soin à un point où vous retrouvez à l'intérieur La Registor Card, hein, qui est très, très prisée aujourd'hui par les collectionneurs qui cherchent des jeux complets sur PC Engine, Neo Geo CD, même la Mega Drive japonaise, ils cherchent les Registor Card qui étaient présentes à l'intérieur. C'est devenu une petite mode. Et sur le marché japonais de la PS1, vous pouvez retrouver facilement ces jeux complets, mais avec carrément tout à l'intérieur, hein, les petits livrets, les trucs de collection, si vous aimez Alundra, si vous aimez Parasite Eve, les Metal Gear, les Resident Evil. Il y a énormément de produits de collection à retrouver, comme Gran Turismo 2 en japonais, qui était une meilleure version par rapport aux 60Hz, hein, la version 50Hz complètement écrasée sur Gran Turismo, tout le monde s'en souvient. Alors après, les gens qui n'avaient pas joué à la version japonaise n'avaient jamais vu en fait l'arnaque entre guillemets de cette version pâle. Mais la plupart des jeux sur PS1, il faut que vous essayiez de les récupérer en japonais et en version américaine pour le côté collection de l'emballage, du packaging. Vous avez même des versions PS1 de la première année avec des big box sur la PS1, comme pour les Alien 3 aussi qui était en big box. Vous avez les NBA Live, vous avez Loaded, vous avez NBA in the Zone. Vous avez plein de jeux comme ça qui étaient en big box sur PS1 et qui sont vraiment intéressants à retrouver aujourd'hui, Tomb Raider, etc. Il y a également une console, hein, qui est intéressante aujourd'hui au niveau du rétro gaming, c'est la Nintendo 64. Alors la N64, c'est une console qui prend de plus en plus de valeur parce qu'il y a des rumeurs de la N64 mini qui pourrait sortir dans l'année, voire dans les 2 ans. On ne sait pas exactement, on sait que Nintendo a déposé un brevet d'une console mini pour la N64 au niveau d'un projet. Et donc, il y a l'engouement qui est en train de revenir petit à petit pour cette console. Alors, il faut savoir que sur N64, vous avez des jeux qui sont toujours inabordables au niveau du prix, comme Conquer Bad Fur Day. C'est un jeu qui était sorti avec une polémique à l'époque et qui est toujours à un prix plus de 50€ en loose. En pâle. Alors la version US, pour ceux qui ont des consoles switchées sur la N64, c'est bien pour eux parce que je pense qu'ils peuvent avoir ce jeu pour peut-être un peu moins cher en version américaine sur la N64. Mais par contre, vous avez des jeux comme les GoldenEye, comme Donkey Kong, tous les ISS, les jeux de sport qui sont à des prix vraiment sympathiques, hein, pour les collectionneurs à moins de 20€ aujourd'hui. Alors il y a également des gens, hein, qui s'intéressent aujourd'hui au marché de l'ordinateur, Atari ST, Amiga et puis PC IBM, c'est un peu moins parce que avoir un IBM aujourd'hui ou un Macintosh chez soi façon années 94 ou 95, c'est compliqué, hein, par rapport à la masse que ça prend, le moniteur et puis le clavier. Mais on peut retrouver sur eBay et d'autres sites des Atari ST ou des Amiga autour de 75-80€ minimum, avec parfois un écran intégré et puis le clavier. Pas de jeu, rien du tout, mais on va dire que c'est un marché qui reste entre guillemets de luxe pour les collectionneurs ordinateurs. Alors pour les gens qui ont gardé leur Atari et leur Amiga aujourd'hui, je pense que le revendre aujourd'hui, c'est la bonne époque, parce qu'il y a pas mal de gens qui retournent un peu sur les vieux ordinateurs pour le côté rétro gaming. Par contre, ceux qui veulent avoir des jeux originaux de l'époque en big box, c'est très très cher. C'est passé, on va dire, allez, de 15€ à peut-être il y a 2 ans, à aujourd'hui plus 50%, voire plus 75% au niveau des big box, hein. Vous avez facilement des Secret of Monkey Island à 45-50€, les Voyageurs du Temps, les séries adaptées des films d'Hollywood, hein, comme les Batman, les Retour vers le Futur, etc., qui sont passées à 25-35€ assez facilement à l'unité. Et c'est des jeux qui étaient en disquette à l'époque, hein, avec même pas 1 méga en fait sur la disquette, il y avait 256K environ par disquette de jeu. Faut dire qu'à l'époque, un Atari 520 ST, hein, ou 1040, ça correspondait à 1 méga ou 520K. Il fallait à chaque fois changer de disquette quand vous vouliez avancer dans le jeu, etc. Et aujourd'hui, hein, c'est devenu un espèce de graal pour les collectionneurs de retrouver les big box qu'ils avaient à l'époque. Et pour le fan casual, c'est très compliqué aujourd'hui d'investir dans ce genre de produit parce que c'est hors de prix, hein, il faut dire les choses. Par contre, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sur Amstrad CPC, Commodore 64, qui font des homebrew et qui vous créent des jeux en fait pour ces ordinateurs. Alors en plus, il y a un côté très très sympa, hein, sur l'Amstrad et le Commodore, c'est que vous pouvez récupérer des enregistrements sonores avec les programmes à l'intérieur et les mettre sur des cassettes audio si vous avez des 464 et des Commodore 64 à cassette. Des programmes qui sont tout faits et puis vous avez juste à les enregistrer sur un lecteur cassette et les passer dans votre ordinateur et ça fonctionne sans souci. Donc la copie existe toujours, hein. Après bien sûr il y a les émulateurs, hein, qui vous permettent de jouer facilement à des jeux, mais est-ce qu'un émulateur aujourd'hui ça rentre dans le cadre du rétro gaming? Je pense pas. Par contre, faut dire une chose, hein, c'est que la Mega Drive Mini aujourd'hui, par rapport au prix de sortie qu'elle avait, 80€, bah elle est en train de dégringoler au niveau des prix. Je ne sais pas si ça se vend énormément, mais il y a un petit souci par rapport à la sortie, c'est qu'elle est très difficilement hackable aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on a eu sur la Super NES Mini et la NES Mini pratiquement à la sortie, avec le logiciel Haki qui vous permettait d'intégrer des jeux directement dans le menu de la console, bah aujourd'hui c'est un peu plus compliqué pour la Mega Drive Mini. Bah alors on a bon espoir que ça fonctionne et qu'on puisse mettre tous nos jeux facilement dessus, mais là pour le moment il faut passer par le menu interne de la console pour charger ses jeux et on risque plus ou moins de briquer sa console et de faire un reset complet et de pas réussir forcément à mettre à chaque fois le hack. Donc pour l'instant la Mega Drive Mini au niveau du hacking c'est pas trop ça et je pense que t'as plein de gens qui n'ont pas forcément adhéré à ce concept de Mega Drive Mini, même si la plupart des jeux sont très bons. Moi je l'ai testé, au niveau du son c'est excellent, il y a du stéréo de très très bonne qualité, l'image est vraiment propre, hein, c'est du 60 fps pour la plupart des jeux, hein, l'émulateur intégré sur la Mega Drive Mini est de très très bonne qualité. Les menus sont fluides, la manette est excellente et équivalente à la manette d'origine. Il y a des petits trucs pour les fans qui ont été rajoutés au niveau des tours Mega CD, etc. qui sont factices, hein, parce que rien ne fonctionne avec. Mais on peut faire en sorte que, voilà, au niveau du design, la console ressemble à quelque chose de ce qui était équivalent à l'époque. Donc la Mega Drive Mini, je pense que pour moins de 60€, voire 50€, vous pouvez la trouver d'occasion sur Internet, voire neuf parfois, dans certains supermarchés. Mais sinon, on va dire que aujourd'hui, elle est un peu boudée par les gens qui font du rétro gaming, qui préfèrent s'acheter les jeux d'origine, même s'il y a des jeux très très chers, hein, dans la setlist de la Mega Drive Mini, qui compte 42 jeux. Et dont certains jeux vraiment qui sont à des prix exorbitants aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Donc voilà, merci à tous, hein. Je voulais juste faire un petit point sur le marché du rétro gaming aujourd'hui au niveau de l'occasion. Et puis j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera de vous répondre, hein. Et puis bon jeu à tous et puis passez de bonnes vacances. À bientôt.